Georges Courteline à l'infirmerie. L'infirmier Gilbert entra, puis derrière lui, l'aide de cuisine en sabots, sa blouse noire de graisse, serrée aux hanches d'une courroie de cuir. Il commença sa tournée coutumière, enlevant la gamelle vide déposée par chaque malade sur son pied de lit, tandis que l'infirmier, son ras de cave à la main, allumait successivement les quatre veilleuses de verre appliquées aux angles de la pièce. Une fois de plus, la journée enfin était achevée, tuée, assassinée lentement, arrachée minute par minute dans les vêtements farouches de cette vie négative s'écoulant entre les murs nus de l'infirmerie. Au dehors, la nuit tombait, une nuit d'hiver, claire, transparente, que venait à pâlir encore un splendide lever de lune surgi de l'horizon avec le crépuscule et qui baignait d'une clarté indécise toute une moitié de l'immense cour. Un calme plat de journée faite avait succédé peu à peu à la vie turbulente et active du quartier. Un silence morne qu'interrompait à de rares intervalles une sonnerie lointaine de trompettes, quelque appel aux consignés, aux brigadiers ou aux sous-officiers de semaine. Derrière les portes, soigneusement closes, les hommes, à présent, soufflaient, chaussaient leurs sabots fourrés de paille, étiraient leurs membres lassés, savouraient l'énorme chaleur dont les poils rougis à blanc emplissaient chacune des chambres. « Une de plus !» fit un des malades. « Alors, ça se tire, y a du bon !» L'infirmier laissa sans réponse cette invite à la causette. Il éteignit son bras, qu'il enfouit dans sa poche après l'avoir mouché entre le pouce et l'index, ensuite de quoi il sortit, toujours silencieux, en homme pénétré de l'importance de sa mission. La grosse clé de l'infirmerie tourna deux fois dans la serrure. Il y eut une accalmie subite, d'un instant, puis comme sur un signal, un remuement de tôle froissée. Des couvertures s'abattirent, des têtes surgirent brusquement, des faces amaigries, jaunâtres, bilieuses, dont les joues mal rasées apparaissaient plus pitoyables encore sous la blancheur écrue des bonnets de coton. Et ce fut pendant une minute une clameur assourdissante. 10 poings fermés menacèrent la porte. « Cochon, salaud, bougre de vache !» Aussi haut, méprisant et dur avec les hommes, qu'il est humble avec le docteur, aussi chien couchant avec l'un que chien hargneux avec les autres, l'infirmier, à juste titre, jouissait de l'exécration générale, en sorte que chacune de ses apparitions soulevait chez les malades un renouveau de fureur, une recrudescence de haine tapageuse, toujours prête à s'exhaler sous forme d'invectives brutales, de menaces aussitôt oubliées que proférées. L'aigre-pain que retenait au lit. L'aigre-pain que retenait au lit depuis 8 jours une de ces fièvres persistantes qui s'acquièrent et se renouvellent à grand renfort de gousses d'ail dans le derrière et de coups de coude dans le fer des lits, laissa la tempête passer. Il demeura grave, silencieux, accoudé dans son traversin, et quand enfin un calme relatif eut succédé à la tourmente, « Voyons, dit-il, c'est pas tout ça. Il faudrait savoir un peu qu'est-ce qui prend la garde ce soir. » Cette plaisanterie de la garde de nuit et de tradition au régiment où elle occupe une place toute particulière dans l'estime des carottiers qui de tout temps ont peuplé les infirmeries. De classe en classe, les soldats se transmettent en effet un certain nombre de facéties dont on ne peut que savoir gré de donner la nomenclature assez restreinte au surplus. Premièrement, envoyer un bleu chez le chef, chercher des bons tabacs dans les sacs à distribution. Deuxièmement, déterminer le bleu à se faire porter au rapport pour une permission de 3 mois, le surlendemain de son arrivée au corps. Troisièmement, mettre le lit du bleu en portefeuille et de façon qu'il n'y puisse entrer plus loin que les chevilles et qu'il emploie une partie de sa nuit à tenter de remettre un peu d'ordre dans des draps qui s'enrouleront d'un côté tandis qu'il les déroulera de l'autre et réciproquement. Quatrièmement, mettre en bascule le lit du bleu en déplaçant les supports de façon que le dit bleu se trouve brusquement la tête sur le plancher, tandis que ses pieds seront soulevés à la hauteur de la planche à pain. Cinquièmement, introduire un fourreau de sabre dans le lit du bleu, de façon que le froid de l'acier, mis en contact avec sa jambe nue quand il entrera dans ses draps, lui cause une impression de terreur excessivement agréable pour les assistants. Enfin, persuader au bleu qu'un malade prend chaque soir la garde d'infirmerie, de façon qu'il passe toute la nuit sur ses pieds à écouter si les ronflements des autres n'ont pas un caractère inquiétant. L'esprit des soldats vit là-dessus depuis des temps immémoriaux. Donc, l'aigre-pin, ayant demandé qui prenait la garde ce soir-là, et Phaès, ayant déclaré qu'il en était descendu le matin même, l'aigre-pin se souleva hors du lit et interpella bruyamment un des infirmes couché à l'autre bout de la chambre. Hé, là-bas, vieux, faut te lever! Le vieux, auquel ce discours s'adressait, était un malheureux idiot, arrivé tout dernièrement à l'escadron et entré le matin même à l'infirmerie pour une de ces blessures assez peu dangereuses qu'il se contracte volontiers après 1 heure ou 2 de trop sans étriller. Tout d'abord, il resta muet, enfoui sous ses couvertures, se demandant à qui l'on parlait. L'aigre-pin dit « C'est Tic-Tes sourd? » Le paysan, cette fois, comprit. « Qui ça, fait-il moi? Faut que je me lève? Et pourquoi donc qu'il faut que je me lève? »« Et parce que c'est ton tour de garde, » dit l'aigre-pin. L'autre roula des yeux effarés. « Mon tour de garde? »« Certainement, » fit l'aigre-pin. Quand je te le dis, tu peux me croire, peut-être. Alors, descends de ton pieu, et vite, vu que les 4 appels sont sonnés. Le paysan gardait une méfiance, ruminant les souvenirs des scies encore récentes pour en l'avait fait passer. Mais de quel droit que vous me commandez de garde? Demanda-t-il. Du droit que je suis le plus ancien, dit l'aigre-pin avec autorité. Oh, là-dessus, tu sais, tu m'embêtes. Te lève pas si tu veux pas te lever. Seulement demain matin, je dirai au major et t'y couperas pas de tes 15 jours de boîte. Ah, tu tires au cul, mon salaud. Tu veux pas en foutre un coup, hein? Tu veux nous laisser crever tous à cette nuit pendant que tu resteras au chaud. Eh ben, attends voir un peu, tu verras ce que ça te coûtera. Sentencieusement, il ajouta: Tu la connais dans les coins, mais c'est pas le tout de la connaître, il faut savoir la pratiquer. Cependant, de tous les coins, des cris montaient: Ouh, en couverte, le bleu! Mais il tire au flanc, ce cochon-là! Portez-vous, 4, en couverte, en couverte! L'aigre-pin dut intervenir. Pas inutile de faire tant de pétards, déclara-t-il. Si l'homme de garde refuse de se lever, Je rendrai compte au major, et voilà tout. Nous verrons qu'est-ce qu'aura raison. En attendant, qui sait ici que suivant de chambre? Moi, dit la grappe, l'alter ego de l'aigrepin, le compère obligé de se mettre fumiste. Eh bien, lève-toi, reprit l'aigrepin. Tu vas prendre la garde à sa place. La grappe dégringola de son lit, ébouriffé, furieux, jouant à merveille la comédie de l'imagination. Il vint placer son poing énorme sous le nez du bleu. Sale rosse, hurla-t-il, sale rosse! Le paysan sentit que les choses se gâtaient. La peur le prit, il eut un petit rire conciliant. Bah alors, c'est bon, dit-il, c'est bon. Et t'as pas besoin de t'emballer, puisque c'est mon tour, c'est mon tour. La grappe, calmée, se recoucha, tandis que l'autre, péniblement, geignait comme un écorché qu'il était, dégageait ses cuisses velues que le sang séché de ses plaies avait collées au drap du lit. Bon Dieu de métier, cochon de sort! Dire qu'on peut pas même être malade tranquillement. L'aigrepin, toujours consolant, prit la parole. Mais te fais donc pas de bile. Plus que 4 ans à tirer, tu seras de la classe. Depuis un grand quart d'heure déjà, la trompette dans la solitude de la nuit avait sonné la fermeture des cantines. La soirée s'était écoulée selon la formule habituelle, dans les redites des mêmes vieux et récits de corps de garde, de dont les mêmes auditeurs s'égayaient chaque soir, avec la même bonne volonté, dans l'échange des calembredaines, d'aine, surannées mille fois servies et resservies, dont l'ennui noir du troupier goûte éternellement et avec le même enthousiasme la saveur toujours imprévue. Puis, peu à peu, le calme s'était fait. Les hommes, les uns après les autres, s'étaient frileusement enfoncés dans les profondeurs de leur lit, et maintenant l'infirmerie dormait, baignée de la lueur douce des veilleuses, noyée dans un silence que troublaient seulement par instants les ronflements de l'aigrepin et les claquements de dents de l'homme de garde. Car l'homme de garde veillait toujours. Sur l'invitation de l'aigrepin, il avait revêtu son pantalon de cheval, chaussé ses bottes, endossé son manteau, et patiemment, il attendait le jour, affalé sur un tabouret, grelottant de froid, se dégelant les doigts au verre d'une lanterne allumée qu'on avait à son intention déterrée du fond d'une armoire, et qu'on l'avait persuadé de conserver toute la nuit sur ses genoux. De temps en temps, un sourd juron lui échappait, un « bon Dieu de sort », un « nieu de métier », au bout duquel il se levait, exécutait une courte promenade, du poêle à la fenêtre, de la fenêtre au poêle, couché en deux à cause de ses fesses malades, toujours sa lanterne à la main. Mais où cette charge grotesque prit des proportions épiques, ce fut quand l'infirmier Gilbert fit son entrée, venant jeter un dernier coup d'œil sur ses malades avant de s'en aller mettre au lit. Il demeura sur le seuil de la porte, la bouche bée, muet d'étonnement. Oh, ça, dit-il enfin, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Le paysan le regarda, et avec un large sourire où tenait toute la candeur de sa 20e année. Je suis de garde cette nuit, dit-il. Ce court colloque avait éveillé les dormeurs. Des rires étouffés partaient de chaque lit. L'infirmier se croisa les bras. Ah, tu es de garde de nuit, fit-il. Eh bien, attends, mon vieux. Tu vas pas y couper. Quoi, y couper? Hurla l'homme aux fesses en compote. Mais l'autre beuglait. Nom de Dieu, veux-tu te recoucher tout de suite? Ah, tu veux faire le paillasse, mon salaud. Tu veux empêcher les autres de dormir. Laisse faire, va. Je vais le dire au majeur et tu couperas pas pour tes 15 jours de boîte. Le lendemain, en effet, à la visite du matin, l'infirmier dit au major: Monsieur le docteur, en voilà un qui se fait passer pour malade et que j'ai surpris cette nuit en train de jouer la comédie avec son manteau, son képi et une lanterne allumée. Le major, dont l'aménité était célèbre à l'escadron et qui avait une faiblesse toujours particulière pour ces sortes de plaisanteries, se tourna vers le comédien. Tiens, tiens, fit-il, vous êtes encore un carottier, à ce qu'il paraît. Allez, levez-vous tout de suite, bon garçon. Vous aurez 15 jours de salle de police. L'infortuné protesta, gémit une phrase d'explication qui se perdit dans un vague larmoiement. Il s'était dressé sur les bras, sa chemise de grosse toile bâillant sur sa poitrine, montrant une tête décomposée, et que l'ampleur du casque à mèche enfoncé jusque sur les yeux faisait ressembler à un gland de chêne enfoui sous sa crucupule. Il bégayait. « Monsieur le docteur, savais-tu, moi, monsieur le docteur, commandé de garde, il couperait pas, plus ancien, vous voyez bien que c'est pas de ma faute, non de là. » L'injustice du sort l'affolait. Soudain, il éclata en larmes. Un sanglot de gamin giflé lui monta de la gorge aux lèvres, en même temps qu'une large grimace lui déchirait toute la face, puis prolongeait les coins de la bouche jusqu'aux oreilles. Cet accès de désespoir grotesque combla de joie toute l'assistance. On se tordit. Les lits, secoués de rire, craquèrent. Seul le médecin-major garda sa gravité. Il eut un haussement d'épaule et, avec un petit geste de la main, « Faites-moi décamper cette brute, Gilbert. Nous avons déjà pas trop de place. S'il faut encore que les fricoteurs s'en mêlent. » Gilbert silencieusement salua. La visite était achevée. Le major, d'un dernier coup d'œil, enveloppa toute l'infirmerie. Puis il sortit, l'air satisfait, fouettant la tige de sa botte du bout tressé de sa cravache. « Eh ben, tu vois, » fit l'infirmier en regardant l'homme de garde avec un mauvais ricanement, « je te l'avais bien dit que tu couperais pas. »« Ben, je lui avais dit aussi, » ajouta les gropins avec une grande douceur.